Il est 18h02 minutes. Vous savez, on a perdu beaucoup de monde ces derniers mois. En fait, oui, vous le savez bien que trop. 5485, ça, ce sont à peu près, ce sont les derniers chiffres de morts au Québec liés à la pandémie. On estime à partir de ces chiffres-là que plus de 30 000 personnes ont été directement touchées par ces décès, parfois complètement inattendu, dans des circonstances épouvantables. Comment on peut faire pour laisser partir quelqu'un qu'on a aimé pendant des années, que ce soit nos parents, un oncle, une tante, un conjoint, sans pouvoir être à son chevet, à ses côtés? Bon, ça a changé au fur et à mesure de la pandémie. Ça s'est ouvert. On a donné la permission à certaines personnes de s'approcher de la personne qui était mourante. Mais ça a été assez tragique. Alors, on va parler de ce sujet du deuil en temps de pandémie. Comment vivre un deuil en temps de pandémie? Et nous avons avec nous Nathalie Vien, qui est de l'équipe des formations Mont-Bourquette sur le deuil de la Faculté des arts et sciences de l'Université de Montréal. Elle a rédigé un guide à l'intention des personnes endeuillées en période de pandémie. On est très contente de l'avoir avec nous. Nathalie Vien, donc travailleuse sociale aussi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est énorme ce qu'on vient de vivre. Perdre quelqu'un en temps normal, c'est extrêmement difficile, mais perdre quelqu'un quand on est à distance, qu'on sait que ça ne va pas bien, ça vient chercher autre chose, là.
Oui, effectivement, parce que déjà, comme vous le dites, perdre un être cher en temps normal, entre guillemets, c'est extrêmement douloureux, c'est tout un choc, c'est difficile de réaliser ce qui est arrivé et ça demande beaucoup de temps pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Lorsque les gens n'ont pas pu être au chevet de l'être cher qui est décédé, ça devient encore plus irréel et c'est encore plus difficile de s'adapter parce qu'il y a trop d'éléments qui font en sorte que les gens doutent que ce soit vraiment arrivé. Souvent, les endeuillés vont dire, on dirait que c'est pas réel, c'est comme un rêve ou un cauchemar.
Oui.
Et donc, les rituels à ce moment-là vont aider les endeuillés à réaliser la perte.
Oui, parce qu'il y avait tellement peu d'informations. Je me souviens d'un article que vous avez peut-être lu, comme moi, dans le journal, où la personne disait qu'il y avait un médecin qui était là quand le gouvernement Legault a demandé à des gens d'aller faire du bénévolat dans les CHSLD. Il y a un médecin qui a appelé une dame pour lui dire « Oui, votre maman est morte, mais je veux que vous sachiez que j'étais là, que j'étais à côté d'elle, que j'ai flatté ses cheveux, que je lui avais mis une jolie robe qui était dans l'armoire, un foulard qui était très joli. Et la dame disait que ça l'avait aidé énormément à mieux vivre cette horreur d'être loin d'une personne qu'on aime au moment de la mort. Il y a des fois où c'est, mon Dieu, c'est impossible de faire autrement dans le sens où quand c'est des situations de guerre ou des situations de quelqu'un qui meurt en voyage, mais dans un cas comme ça, c'est mon Dieu Seigneur, on savait que la personne n'était pas bien.
Oui, et déjà de recevoir de l'information, parce que quand un de mes proches est à la fin de sa vie, je veux l'accompagner, je veux être présent, je veux lui donner mon amour, le soutenir.
Oui.
Et là, si je peux pas être là, de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce que la personne était bien? Est-ce qu'elle avait de la douleur? Est-ce qu'elle était accompagnée? Donc, de recevoir de l'information de ce médecin-là qui a justement accompagné la dame jusqu'à la fin de sa vie, c'était extrêmement rassurant, d'autant plus que c'était des informations rassurantes, justement, parce que la dame, elle était décédée dans la paix, dans la douceur et entourée de ce médecin-là et de sa bienveillance. Là.
Ah oui, moi, ça m'avait ému aux larmes, cette histoire-là.
Ouais.
J'avais trouvé ça tellement beau. Alors, donc, c'est... Qu'est-ce que vous dites aux gens, justement, qui ont perdu un être cher dans ces circonstances pour la suite des choses, pour le deuil, pour comment faire son deuil dans des circonstances comme ça?
Oui. En fait, d'une part, c'est important d'en parler. Ça, c'est sûr que le plus important, c'est d'en parler, parler de la perte, de qu'est-ce que ça fait vivre dans le processus de deuil, d'en parler à ses amis, de consulter des gens, des professionnels aux besoins. C'est aussi important d'organiser les rituels funéraires. Parce que les rituels funéraires, là, c'est sûr que ils étaient extrêmement limités, même si c'était des services essentiels pendant le confinement. C'était difficile d'organiser des rituels avec beaucoup de personnes. Donc, il y a plusieurs familles qui ont choisi de reporter les rituels. Donc, pour ces familles qui ont choisi de reporter, c'est important de les organiser, même si le temps a passé, ça fait des semaines, peut-être des mois. C'est important d'organiser ces rituels-là, de rassembler la famille, la communauté pour vivre ça ensemble. Parce que les rituels, ils ont beaucoup de fonctions, de bienfaits, en fait. D'une part, de bien sûr marquer le décès, de voir la personne décédée, d'honorer sa mémoire, mais de rassembler la famille et la communauté, de soutenir les proches endeuillés. Et ce que ça fait aussi, c'est que le décès de cette personne-là, bien sûr, ça s'inscrit dans l'histoire de la personne en deuil, mais ça s'inscrit aussi dans l'histoire de la famille et de la communauté. Mm-hmm. Et donc, les rituels permettent que les défunts ne partent pas dans l'oubli. Ils sont honorés et on s'en souvient, on se rappelle, et il y a un événement pour marquer leur décès.
Et ça aide aux gens qui sont endeuillés, qui ont de la peine, à passer vers d'autres étapes du deuil. Après le choc initial, il y a des étapes importantes. Et si on ne les passe pas, ça peut être comme un boomerang, là, ça nous revient en pleine face.
Tout à fait. Des fois, les gens peuvent penser « Oh, on n'organisera pas les rituels, comme ça, ça va être moins difficile. » Mais tout ce qui n'est pas vécu au début, même si des fois c'est difficile, c'est émouvant, ben ça s'en va pas, ça disparaît pas comme par magie. C'est comme mettre la poussière en dessous du tapis. Mm-hmm. Donc, c'est important justement de vivre ces rituels-là pour après, justement, avoir le soutien de toute cette communauté élargie et pouvoir après vivre les émotions puis se rappeler tout ce qui a été vécu pendant les rituels funéraires. Donc, c'est vraiment un bienfait de parce que les rituels, en fait, c'est le début du processus de deuil. Le deuil n'est pas terminé avec les rituels, mais ça permet de commencer le deuil d'une meilleure façon, en fait.
Oui. Dans un article que j'ai lu sur vous, une entrevue avec vous, article de l'Université de Montréal en avril, on vous posait la question, on est tous un peu en deuil de quelque chose, de notre liberté de mouvement, et vous disiez, être en deuil, c'est dire adieu à quelque chose qui n'existe plus. Or, notre capacité à aller où on veut, avec qui on veut, finira par revenir, alors que la personne, l'être cher, ne reviendra pas. Et c'est important de souligner ça dans les rituels comme ceux que vous venez de décrire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on veut donc que ça aille vite, puis on veut donc... Des fois, c'est rendu que ça, c'est une heure pour recevoir les condoléances, une petite cérémonie de 15 minutes. Merci beaucoup, bonjour.
Oui, c'est tellement rapide.
Je comprends pas.
Oui, c'est que dans notre société, la mort et le deuil sont des sujets tabous. Donc, depuis plusieurs années, notre société vit comme si la mort n'existait pas, hein? Comme si la médecine va guérir toutes les maladies, comme si un jour on va vivre éternellement. Donc, les gens n'ont pas apprivoisé le phénomène du vieillissement, de la maladie, de la mort et donc du deuil aussi. Et les endeuillés, depuis longtemps, dérangent parce qu'ils nous rappellent que la mort existe. Donc, présentement, avec le confinement, avec la pandémie, la mort et le deuil sont ramenés au sujet, sur la place publique, je dirais, comme sujet important, mais en même temps, les gens ne sont pas préparés, les gens ne savent pas comment vivre le deuil. Même j'entends des appels, je reçois des appels de professionnels qui ne savent pas comment accompagner les personnes en deuil, parce que ça fait trop longtemps qu'on a oublié de parler de ce sujet-là, de la mort et du deuil.
C'est assez particulier parce que pendant des millénaires, on veillait le mort même dans la maison, là où on vivait, etc. Et tout ça se perd. On veut même pas le voir, le mort. Hein. C'est comme vite, une urne et c'est tout. Écoutez, on n'a pas énormément de temps, mais je veux quand même vous demander, pour aider les auditeurs, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter là pour nos proches en deuil? Si on a une amie ou un voisin ou quelqu'un qui a perdu un être cher pendant cette pandémie, comment voir les signes qu'on devrait peut-être... agir ou leur parler ou leur suggérer des choses?
Bien, déjà, de leur dire qu'on est présent, donc de leur dire que vous êtes là, que vous êtes disponible pour en parler, c'est déjà... Puis peut-être qu'à ce moment-là, ils n'auront pas le goût, mais peut-être plus tard, ils vont vous appeler pour vous aider. Donc, c'est sûr que le deuil, c'est pas une linéaire. Hein. Des fois, il y a des moments où il y a des périodes plus difficiles, des périodes où ça va bien. Donc, il faut être à l'affût, en fait, des personnes en deuil. Mais c'est sûr que des gens qui refuseraient totalement d'en parler tout le temps ou qui ou dans leur fonctionnement, hein, iraient de moins en moins bien. C'est normal de plus avoir le goût de sortir, de plus faire beaucoup d'activités, mais quand il y a un isolement très important, là, peut-être effectivement, il faut s'inquiéter puis il faut encourager les gens à consulter. Mais c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce que les gens en deuil perdent le goût de faire certaines activités ou des fois il y a des problèmes au niveau de l'appétit, au niveau du sommeil. Ça, c'est, il y a un repli sur soi qui est normal. Mais un repli sur soi pour réfléchir à la personne qui est décédée, c'est une chose. Mais de s'isoler, hein, et ne plus du tout être en lien avec sa communauté, ses amis ou son réseau de soutien, ça, c'est un autre niveau, là.
Oui. Et puis, il faut accepter aussi, si on a vécu des choses comme ça, qu'un gros chagrin, qu'on soit un homme ou une femme, c'est permis.
Oui,
Ah,
effectivement.
on
Puis il
dirait
faut
que...
passer à travers des émotions, peut-être la culpabilité, la tristesse, la colère, l'ennui, l'anxiété, parce que des fois, la mort, ça, le deuil d'un être cher, ça nous rappelle que nous aussi, on va mourir.
Voilà.
Donc, ça peut nous faire monter beaucoup de réflexions et c'est important de s'y attarder et de prendre le temps d'en parler et de réfléchir à ces sujets-là.
Nathalie Vien, travailleuse sociale spécialisée en deuil, qui a rédigé un guide, je vous le rappelle, à l'intention des personnes endeuillées en période de pandémie, en collaboration avec l'Université de Montréal. Je vous dis un énorme merci. Je suis sûre que vous avez fait du bien à beaucoup de monde.
Merci beaucoup et merci d'avoir parlé de ce sujet-là à votre émission.
Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir.
On s'arrête maintenant et après la pause, eh bien, on va rester dans une atmosphère quand même très, très douce. Certainement pas une atmosphère de deuil nécessairement, mais une atmosphère... Vous allez voir, je vous promets quelque chose de très, très beau avec quelqu'un qui s'appelle Alexandra Strelitzky et aussi quelqu'un de très, très bien qui s'appelle Catherine